Étienne Papapien et tous les autres aussi, bonjour. Tout le monde parle de Spider-Man ces jours-ci, au vu du carton planétaire du dernier volet, mais puisque j'ai Jérémy en face de moi, je serais plutôt tenté de dire que c'est l'année araignée. Alors oui, j'entends tout de suite les puristes, on ne dit pas l'année araignée, mais l'année de araignée. Et gna gna gna, et gna gna gna, et je vous préviens, ne commencez pas à me prendre la tête, moi aussi j'ai le droit de profaner la langue et de faire des jeux de mots à deux balles. Donc, disais-je, Spider-Man n'a qu'à bien se tenir avec son collant Mulburn. Il est peut-être collé aux façades d'immeubles, mais Jérémy, lui, il est sur tous les fronts. On l'a vu il y a 3 mois dans L'Homme de la Cave de Philippe Le Guay. 1 mois plus tard, il prenait son envol avec l'Albatros de Xavier Beauvois. Et le revoici déjà dans un thriller oppressant avec l'ennemi de son compatriote Stéphane Strecker. Et cet ennemi-là, faites-moi confiance, c'est d'un autre calibre que Docteur Octopus, l'Homme Sable, le Lézard ou je sais quel bouffon vert, qui a d'ailleurs tout à fait raison d'un strict point de vue diététique. Oui, c'est mieux de bouffer vert. Autant dire que j'ai face à moi un hyper-acteur, hyper-actif, enfin bref, un acteur hyper, et un acteur hyper, ben je maintiens, c'est mieux qu'un super-héros. Allez, pop, c'est parti.
France Inter. Pop. Antoine de Caunes.
Et bonjour Jérémy Régnier.
Bonjour.
C'est un beau bonjour ça. Ça c'est un bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Jérémy. Vous connaissez le dicton divisé pour mieux régner, j'imagine. Or j'ai l'impression quand je vous vois jouer que vous êtes plutôt du genre partageur. Me trompe-je?
Dans quel sens partageur?
Partager avec vos partenaires, partager avec votre metteur en scène.
Oui, je pense que vraiment c'est important pour moi le côté troupe, le côté de jouer ensemble. De partager ces moments-là, au-delà même du film, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et qui surtout, je pense, qui aide le film et la réussite du film.
Mais le côté troupe, bah tiens, bah, pourtant une seule expérience théâtrale, si mes informations sont bonnes.
Une seule expérience théâtrale, oui, j'ai toujours eu assez, d'une part, peur, je crois, du théâtre. Et puis aussi, les choses se sont pas mises en place comme ça aurait pu. Et puis non, c'est vrai que même en tant que spectateur, je prends... Pourtant, j'en ai vu et j'en vois des pièces de théâtre, mais c'est rarement bouleversant comme peut me bouleverser ou me rendre en émoi un film. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas tout de suite, mais peut-être qu'un jour je serai amené à...
Des promesses, toujours des promesses, oui, c'est la période. Jérémy, vous allez régner au moins sur le royaume de la pop culture la semaine prochaine avec la sortie du film L'Ennemi, c'est le nouveau film de Stéphane Strecker, votre compatriote, et nous allons en parler jusqu'à 17h. En tous les cas, bienvenue dans cette émission, je dis ça très sincèrement, parce que c'est une première en presque 1000 émissions. 1000 émissions, ce qui signifie que j'ai presque déclenché 1000 fois ce jingle... Et je l'ai déclenché pour demander à mes invités leur définition de la pop culture avec cette voix un peu étrange. Mais vous, la vôtre? Ah, bah tiens, attendez, ne répondez même pas. Est-ce que la vôtre, ça serait pas celle-ci?
Je m'appelle Claude François. Vous verrez, un jour je ferai un disque.
Oui, Jérémy, vous étiez Clo-Clo dans le film sur Clo-Clo, comme l'indique son titre, Clo-Clo d'ailleurs. Enfin bref, Clo-Clo, ça serait pas une définition possible, ça, de la pop culture?
Je sais pas, en tout cas, quelque chose qui nous relie tous les deux par rapport à cette histoire. Pour revenir sur une anecdote, c'est fou parce que il y a très longtemps, Antoine, vous êtes venu me voir et me présenter. C'est la première fois qu'on m'a présenté Claude François en m'imaginant dans le rôle. Et puis les choses se sont passées comme se sont passées, et puis le temps a passé, et puis voilà, j'ai fait le film avec un autre metteur en scène.
Oui, pourquoi
on se retrouve après une fois, merde.
Pourquoi tu veux me raconter cette histoire?
C'est atroce.
J'avais presque oublié.
Je suis désolé, Antoine.
Bon, continue.
La pop culture, oui, je pense qu'il y a une définition par rapport à quelque chose qui devient, qui dépasse. Il y a beaucoup d'artistes qui d'un coup, surtout en musique, je dirais plus qu'autre part, dernièrement, qui deviennent d'un coup des phénomènes et puis du coup, on les aime sans vraiment les aimer ou il y a quelque chose comme ça. Ça fait partie de sa journée, de ce qui se diffuse à la radio, de d'un brouhaha et qu'on n'a pas le choix que l'entendre et que ça fait partie de notre culture sans qu'on en ait vraiment eu envie ou qu'on les désirait, quoi. Rencontrer.
Cette culture dans laquelle on baigne au quotidien, sans même s'en rendre compte.
Oui.
Et qui nous imprègne, qui finit par devenir une partie importante de nous-mêmes.
Mais en même temps, j'adore ça. Moi, les choses, j'ai toujours aimé des gros films
Spider-Man.
Spider-Man, non, je l'ai pas encore vu, mais je serai le premier à y aller dès que je pourrai.
Habillé, gratiné le dernier pour moi. Ouais. Cette pop culture, nous allons en parler ensemble, mais quand je vous vois, Jérémy Régnier, je pense à Give It All. C'est un morceau du groupe de rock britannique Falls, et si ça me fait penser à vous, bah c'est parce que vous avez joué dans le clip. Alors comme nous sommes à la radio, je peux pas diffuser le clip, évidemment, mais je peux vous faire écouter le morceau, et c'est ce que je vais faire tout de suite.
Bonne idée.
Give me something I haven't seen. Give me the red light turning green. Give me the words but not the page. Give me it all. Give me the time but not an age. Give me the look but not the rage. Give me the feel for where I'll go. You give me it all. Give me the
c'était ce morceau Give It All, et je vous invite à aller voir le clip car vous y retrouverez notre invité Jérémy Régnier, qui a d'ailleurs à peu près le visage de celui qu'on vous découvre dans L'Ennemi, barbu.
Un peu plus glabre.
Un peu plus.
Ah non, peut-être qu'au début du film.
Bien barbu.
Il y a des flashbacks.
On va revenir sur L'Ennemi. Mais d'abord, on va parler un petit peu de cinéma, de votre rapport au cinéma, parce que vous avez été attiré très très tôt par ce monde du cinéma, Jérémy.
J'étais très curieux, en tout cas. Je sais pas si j'étais... Oui, si, c'était une forme d'attirance, mais je m'imaginais pas acteur. D'une part, parce qu'en Belgique, à mon époque, il y a ça maintenant 95 ans, 95 pour les Belges, il y avait très peu d'accessibilité au cinéma. Peu de productions qui se faisaient, donc c'était plus le théâtre. Moi, le théâtre m'intéressait moins, donc... J'étais plus curieux de savoir comment ça se passait.
Justement, dans votre Belgique natale, la RTBF diffusait chaque lundi soir deux films. Il y en avait un film populaire et l'autre plus arty. Et votre père enregistrait les deux sur des VHS pour vous constituer une vidéothèque. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs expliquer ce que c'est qu'une VHS aux milléniaux qui les écoutent? Alors, ne dites pas surtout que c'est l'ancêtre du CD, parce que même le CD, ils savent pas.
Non, mais déjà, c'est quelque chose qui se prend en main. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il est réel, en fait. C'est... Mais, ouais, en plus, il y avait un truc assez dingue, c'est qu'on pouvait ralentir la vitesse. On passait de SP ou en LP. Mmh, du coup, on pouvait enregistrer plus de films, mais avec une moins bonne qualité. Ouais. Mon père était inconsciemment un érudit de ça. Il était cinéphile sans le savoir, mais sans jamais imposer quoi que ce soit, sans me dire tiens regarde ce film, tiens il faut que tu t'inspires de ça. Donc en fait j'allais piocher tout seul dedans et je tombais du coup sur des films dingues. Il m'interdisait rien, il savait même pas ce que je voyais, si je les regardais ou pas. Et donc du coup j'ai pu découvrir plein de films comme ça. Et
c'est donc cette vidéothèque privée qui vous a donné.
Mais il l'a fait pour lui au départ, je pense. Et puis voilà, puis ses enfants, moi, on piochait dedans. Mais c'est vrai que je pouvais passer des heures à voir, découvrir des films.
J'avais donc c'est ça, curiosité. Cette première envie de jouer, de vous retrouver de l'autre côté, ça vient de là aussi.
Peut-être. En tout cas, c'est sûr que la curiosité du cinéma et l'envie de découvrir un univers cinématographique large vient de là.
Oui, parce que vous aviez aussi un caméscope. Alors, je précise, attention des mèmes, c'est une petite machine qui permettait d'enregistrer sur des cassettes.
Exactement, et on glissait la cassette. Et il fallait rebobiner la cassette jusqu'au début pour pouvoir le revoir.
Et parfois, la bande se coinçait. Exactement. Voilà, il fallait prendre un petit crayon. Mais donc, vous n'êtes jamais servi de ce caméscope, enfin, au point d'éveiller en vous une vocation de réalisateur, par exemple.
Si, j'aimais beaucoup tous les week-ends, en fait. Je kidnappais mes potes et je leur obligeais, les pauvres, à tourner des espèces de petits court-métrage irregardable aujourd'hui, mais
allez savoir.
Mais en tout cas, je prenais beaucoup de plaisir à mettre ça en scène, à imaginer des scènes, à jouer. C'était souvent des trucs très gore ou très violents, avec des poursuites qui s'en finissent pas.
Vous savez que ça m'intéresse. Voilà. Vous savez que j'ai envie de regarder ça.
Peut-être. Ah, oui. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait une envie. Et encore une fois, vraiment enfantin. Enfin, il y avait pas d'ambition derrière tout ça. Ouais, quoi. Ouais. C'était vraiment le plaisir.
Mais enfin, en même temps, vous allez courir assez rapidement les castings, vous fréquentez l'école du cirque de Bruxelles et vous suivez même des cours de. Bon, alors évidemment, je fais le mime là, mais évidemment, faire le mime à la radio, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est à ce moment-là que ça s'éveille cette envie de jouer.
J'ai du mal à situer. En tout cas, je parle de curiosité parce que j'ai pas le sentiment de me dire tiens j'ai envie d'être acteur.
D'accord.
Et encore une fois, j'ai passé des castings, mais très peu. Il y avait très peu de choses qui se faisaient. Mes parents étaient pas du tout dans ce milieu-là. Ostéopathes tous les deux, donc tout allait doucement. Et j'étais curieux. Et quand on me parlait tiens il y a un casting, je dis pourquoi pas aller. Et je le faisais. J'étais très timide aussi, donc du coup c'était une épreuve pour moi pour aller.
Tous les handicaps.
Ouais.
En tous les cas, le point de bascule. C'est très précisément ce film.
Est-ce que tu pourrais me rendre un petit service?
Quoi?
T'as 1000 balles si tu donnes ça à la femme d'Amidou. Tu lui dis que tu le devais parce que t'as joué au Trick Track la semaine passée.
Et Roger, il le sait?
Non.
Combien tu me donnes pour me la fermer?
1000 de plus? 2000?
Et quand est-ce que tu veux que je pense ça?
Tout de suite.
C'est donc extrait de La Promesse des frères Dardenne. C'était en 96. Vous aviez 14 ans. Je vous voyais en train de vous écouter avec.
J'essayais de m'entendre. C'est dingue de vous écouter avec cette voix plus jeune et puis cet accent 2000. J'y arrive pas.
Jérémy Régnier, vous saviez que quelques années plus tard, vous seriez à ce micro de Pop aujourd'hui pour défendre votre 51e long métrage?
Non, heureusement que je ne le savais pas. Parce que. C'est ce que j'aime dans la vie, c'est de me laisser porter, puis de faire confiance, puis de voir où elle nous emmène. Et non, je pensais pas du tout. J'étais curieux, comme je l'ai dit, et puis j'ai découvert ce métier qui m'a passionné. J'ai eu la chance de découvrir des metteurs en scène, des rôles et tout ça, et puis de faire de la promotion, découvrir aussi ce que c'est de faire de la promotion, de parler à la radio, tout ça. Voilà, je l'ai appris au fur et à mesure. Un bout de vie.
51 longs métrages, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette filmographie est pop, parce que ça va du classique de la pop culture, Dickonek.
Tu veux le bas, c'est ça? Vas-y, connard. Hein? J'attends. Viens.
Il est tout à fait fou, ce type. Hein? Oh! Au cinéma, tu restes debout, toi. Assieds-toi!
À Potiche, de François Ozon, en passant par le Saint-Laurent, de Bertrand Bonello.
Yves, le défilé approche. On n'a rien pour commencer à travailler.
Oui, je sais. Est-ce que tout ceci n'est pas dérisoire ?
Non.
Alors, saviez-vous, Jérémy, que... que grâce au film de Bertrand Bonello, vous êtes dans le classement anti-Fifty Shades of Grey, le top 10 des films de Terra Femina pour vraiment se rincer l'œil en voyant des acteurs à poil. Mm-hmm. Est-ce que ça vaut pas tous les Oscars du monde, ça?
La chance.
Ah, oui.
Merci.
Bah, je vous en reviens, j'y suis pour rien.
Mais... Je parte avec une plus grande gloire. Gloire, j'ai dit.
Oui, j'avais compris autre chose. Jérémy Régnier, on a balayé très rapidement hein, votre filmographie, mais ce qui en ressort et ce qui sort de presque chaque interview vous concernant, c'est le mot perfectionniste. Perfectionniste, c'est ce qu'on dit à quelqu'un qui passe son premier entretien d'embauche pour répondre à la question piège. Alors, quel est votre défaut? Alors, Jérémy Régnier, quel est votre défaut? Perfectionniste.
Perfectionniste. Oh, j'en ai tellement, je sais pas. C'est toujours difficile. Je pense que je suis aujourd'hui justement à un endroit où je suis à la recherche de moi et de voir qui je suis réellement. Mm-hmm. À 40 ans. Ouais. Vous verrez quand vous aurez 40 ans, Antoine. Mm-hmm. Vous passerez par là aussi.
J'approche le double.
Mais voilà, donc c'est vrai que je saute de ça pour pas répondre à la question, mais... il y a plein de choses que je découvre encore de moi aujourd'hui et j'apprends sur moi-même, sur qui je suis encore plus à travers ce métier forcément, mais aussi voilà. Donc aujourd'hui,
Je garde perfectionniste.
Perfectionniste, oui.
Je garde et je le garde, Jérémy perfectionniste Régnier. Et nous allons parler de L'Ennemi, votre nouveau film, avec notre amie Charline Roux. Ce sera juste après le Is There Someone Else. C'est un extrait du nouvel album de The Weeknd.
Inter. Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Roux, bien sûr. Car oui, voici notre ami Picard de Charline qui fait son entrée pour nous parler de L'Ennemi, le film que vient nous présenter amicalement Jérémy Régnier. Alors L'Ennemi, c'est le quatrième long métrage de Stéphane Strecker et ça démarre comme ça.
Un jour, tu verras, l'on se rencontrera.
Avec ce morceau, Un jour, tu verras, de Mouloudji. Mais que se passe-t-il ensuite, Charline ?
Louis Durieux est un homme politique dont les débuts fracassants laissent à penser qu'il est promis un brillant avenir. Mais voilà, Louis vit une histoire des plus passionnelles avec Maëva, journaliste devenue son épouse. Une nuit, après une énième engueulade, Louis se rend à la réception de l'hôtel dans lequel il séjourne pour appeler à l'aide. Sa femme vient de se suicider. Ou en tout cas, c'est ce qu'il dit. Rapidement, il est suspecté d'en être le meurtrier. Une histoire librement ou vaguement, comme il vous sied, inspirée de l'affaire Westphal, un homme politique belge soupçonné d'avoir assassiné sa femme. Est-ce que vous aviez, Jérémy, entendu parler de cette affaire et est-ce que vous faisiez partie des gens qui avaient un avis bien tranché sur son éventuelle culpabilité, parce que c'est un peu le nerf de l'intrigue?
Pas du tout. Westmal, si je peux me permettre.
Oui, je vous en supplie, corrigez-moi.
Etterbeek, Westmal. Ouais. Non, je ne connaissais pas du tout l'affaire. Je n'étais pas à ce moment-là en Belgique. L'affaire m'est un peu passée au-dessus. Et surtout, en fait, Stéphane très vite m'a demandé de m'écarter de cette affaire, de ne pas l'intégrer dans le travail pour pouvoir être libre en fait de la réinventer. Et puis je pense que vraiment Stéphane avait envie d'utiliser ce fait divers pour aller raconter autre chose, quoi.
L'ennemi, bande annonce, voilà ce que ça donne.
I can't forget the night I met you.
Bonjour.
Bonjour.
That's all I'm dreaming of.
Je vous ai déjà vu plusieurs fois et ma femme vient de se suicider. Je sais que vous êtes la femme de ma vie. On se quittera plus jamais. Vous verrez, j'en suis convaincu, on est fait pour vivre l'absolu. Je vous aime.
Voilà, c'est comme ça que commence ce film, sur cette déclaration d'amour fou, sur cette sublime musique de Nat King Cole. C'est signé Stéphane Strecker et c'est avec vous, Jérémy, mais aussi avec Emmanuel Berco, Félix Marito et Alma Jodorowsky. Alma Jodorowsky, dont vous dites que c'est une révélation extraordinaire. Si vous l'avez dit, bah oui, vous l'avez dit.
Oui, non, mais je le redis. Mais non, c'était un film pas évident. Surtout pour la place de ce rôle-là, qui était au départ difficile pour lui donner de l'humanité, de ne pas l'enfermer dans quelque chose d'obscur. Et donc voilà, il y a eu un long travail là-dessus qu'on a fait. Je trouve que Alma est quelqu'un qui est très généreuse dans le travail, qui est très présente, qui se remet en question. Voilà, en fait, dès le départ, c'est vrai que j'en ai parlé à Stéphane et c'est assez drôle comme histoire, c'est que j'avais croisé Alma, on se connaît assez mal et on s'est croisé par hasard. Et en fait, à ce moment-là, Stéphane venait de perdre l'actrice avec qui il avait pensé au départ. Et très vite, Alma m'est apparue comme étant une possibilité assez géniale pour le film. Et je lui en ai parlé, il m'a dit ah, « mais pourquoi pas ?» Et voilà. Et les choses se sont faites comme ça.
Et dans L'ennemi, vous êtes de tous les plans, ou presque, parfois très serré, notamment sur vos yeux, y compris quand vous ne parlez pas. Comment est-ce que vous êtes accommodé de cette présence très appuyée de la caméra ?
C'est simple, il faut prendre une caméra, vivre avec elle, se brosser les dents, aller aux toilettes avec elle, vivre 24 heures sur 24 avec une caméra, c'est mon prochain roman.
Non mais comment filme l'intimité, là, pour le coup, c'est vrai que vous êtes de tous les plans et de très près, souvent.
Oui, je sais pas si d'être prêt ou pas, de toute façon, qu'elle soit prêt ou loin, on est censé faire tout pour l'oublier. pour vivre, en tout cas pour jouer, pour avoir l'impression d'être libre sans elle, tout en ayant un appui avec elle. Mais l'idée, c'était surtout de me sentir libre et de me lâcher totalement. En fait, très vite, Stéphane Strecker me disait voilà, moi j'ai vraiment plus besoin. Il est dans une forme de densité quand il parle et quand il travaille. Et là, il me demandait de me laisser totalement aller au film, au personnage. Et voilà, et je sais ce que ça coûte de se laisser parfois trop aller et voilà, donc moi j'y étais, je lui ai dit ok, allons-y doucement, et puis je me suis laissé porter et je dois dire voilà, et c'est comme ça que surtout le travail s'est fait, c'est en faisant confiance, quoi.
Parce que de fait, en étant quasiment complètement à l'écran tout le temps, la gestuelle, les attitudes de Durieux sont constamment scrutées, ce qui est fait exprès aussi dans le film. Comment est-ce que vous avez trouvé et travaillé sa gestuelle, qui est très particulière pour le coup?
Comment j'ai travaillé, mais comme chaque fois, comme en amont, en réfléchissant sur le personnage, en imaginant comment il évoluait, ce qu'il traversait, sa carapace, son intériorité, ses souffrances. Et très vite, j'avais envie, je m'appuie souvent, en tout cas, c'est atroce, la husse. Mais c'est vrai que j'aime travailler le corps en tant qu'acteur. Oui. Je trouve que c'est un outil vachement intéressant, qu'on n'utilise pas toujours et qu'on peut pas toujours utiliser. Mais sur ce film-là, je me suis dit, oui, c'est important que ce personnage souffre, mais que sa souffrance soit visible et pas intellectuelle ou dite. Et du coup, j'avais envie de trouver un axe corporel où tout de suite, on se dit, ah ouais, ok, le gars, il y a quelque chose qui va pas en lui. Il y a quelque chose qui est brisé, il y a quelque chose qui n'a pas besoin de nous raconter. Et donc, j'ai perdu énormément de poids. Et du coup, ce qui permet après aussi de travailler différemment, d'être dans une autre énergie, de marcher différemment. Voilà, tout ça... Et tout ça est fait aussi de rencontres, de discussions avec Stéphane, avec les autres acteurs, et puis mon petit chemin, moi, quoi.
On parle ici d'un acteur investi, je ne sais pas pourquoi, mais moi, il y a un moment où vous me faites penser à Van Gogh. Non, c'est vrai, ah ouais. Avec cette barbe, avec ces kilos perdus, ce teint
ouais, c'est vrai.
Halluciné, il y a quelque chose, je ne sais pas.
Bon, ouais, enfin, non, c'est vrai.
Je m'écarte du sujet. Revenons au film, un mot sur le titre, car il faut, selon le réalisateur, entendre l'ennemi au sens ennemi intime. Il dit le pire ennemi qu'un être humain rencontrera jamais étant lui-même. C'est Stéphane Strecker, ça. C'est une notion pour vous qui est également importante, ça, Jérémy Régnier.
Alors, j'ai peut-être pas la même vision que lui, mais parce que je pense que on a un ennemi intérieur, mais
il y a une dualité chez ce personnage.
Il y a une dualité si on parle du film. Mmh. Oui, je pense que il est pris au piège entre ce qui donne l'impression d'être, ce qu'il pense être, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il pense faire. Voilà. Donc il y a une vraie remise en question sur qui sommes-nous, en fait. Mmh. Et l'intime. Et c'est vrai que on pose la question de l'intime. Sur le fait de se dire, tiens, ben, je me regarde dans une glace et qui je suis réellement?
Ouais.
Qui je suis réellement face aux médias, face au pouvoir politique, face à ma femme? Voilà. Et tout d'un coup, et puis face à ce meurtre. Et tout d'un coup,
oui,
voilà.
Parce que c'est ce qui est troublant pour nous autres téléspectateurs. On ne sait jamais à qui on a affaire.
Ouais.
Et lui-même se pose la question.
Et moi, il m'avait raconté alors une chose, sans dévoiler le film, mais pour justement pouvoir interpréter ça, parce que c'était pas évident, parce qu'on suit le personnage, on ne sait jamais vraiment si ce qu'il a fait est vrai, s'il est une victime, un bourreau, si. Et du coup, moi, je lui ai posé cette question. Je posais des questions. Comment m'y retrouver là-dedans et comment y croire? Il m'a raconté une histoire assez atroce. Il m'a dit qu'un jour, il avait entendu un fait divers où une femme s'était réveillée le lendemain. Elle avait tué son mari, mais elle ne se souvenait rien parce qu'ils avaient picolé toute la nuit. C'était un couple un petit peu destructeur aussi, mais elle se souvient pas. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et je me suis dit, ça doit être atroce de se retrouver dans une situation comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? N'importe qui autour de cette table peut arriver un moment à se retrouver dans une situation qui n'a pas prémédité. Et voilà. Ce qui ne veut pas dire ce que c'est.
Non. On a rien film, dit. Mais on n'a rien dit, on n'a rien spoilé. Mais c'est une des questions soulevées dans L'Ennemi, réalisé donc par Stéphane Strecker. C'est avec vous, Jérémy, et c'est déjà en sélection dans de nombreux festivals. Nous allons continuer à en parler dans un instant, mais pour le moment, il est 16h32, ça veut dire que c'est l'heure des Pop News.
Jack White continue de dévoiler ses nouveautés en prévision de ses deux albums à sortir et c'est une ballade titrée Love is Selfish qu'il nous propose aujourd'hui. I'm on a train, but I cannot rest upon it. I'm on a train, but it won't stay on the rails. And I got a sailboat with her name. Love is Selfish figurera sur Entering Heaven Alive, l'album de Jack White qui sortira en juillet et qui sera précédé en avril par Fear of the Dawn, un autre album complet. Une année bien chargée pour White qui sera par la suite en tournée, qui devrait s'arrêter le 7 juillet au Radiant à Lyon et du 18 au 20 juillet à l'Olympia.
Dans Ils sont vivants, le nouveau film réalisé par Jérémy El-Khaïm, Marina Foïs et Béatrice, veuves depuis peu, qui vit avec son fils et sa mère.
Ce dont tu as besoin, à mon avis, c'est d'un ami. Quelqu'un qui veille sur toi.
J'ai donné des habits de Benoît.
Tu les as donnés à qui?
Aux réfugiés.
T'as donné les habits de Benoît à des immigrés.
Déshonoré, c'est ça?
Benoît se retourne dans sa tombe, c'est avec des gens comme ça, particulièrement quoi.
Non, mais Benoît, il est mort. Donc en fait, il se retourne dans sa tombe autant qu'il veut. On te reconnaît plus.
J'ai vraiment envie de les aider à passer en Angleterre.
Octave, Béatrice.
Hello.
Chine.
Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant iranien arrivé clandestinement en Europe, va bouleverser son quotidien. Ils sont vivants, ce sera le 23 février dans les salles.
Une nouvelle série par la papesse du suspense et du sentiment. J'ai nommé Shonda Rhimes, à qui l'on doit des monuments allant de Grey's Anatomy à Scandal, en passant par How to Get Away with Murder. Sa nouvelle production s'appelle Inventing Anna, de son patronyme complet Anna Delvey, dont on ne sait si elle est l'héritière allemande légendaire qu'elle prétend être, ou une arnaqueuse de génie. Une journaliste mène l'enquête.
Il se pourrait que j'ai quelque chose. Elle s'appelle Anna Delvey, ou Anna Sorokine, personne ne sait vraiment. C'est une héritière méga richissime allemande ou une fille complètement fauchée. Les chefs d'accusation, tout est dingue.
Anna Sorokine s'est rendue coupable de crimes en col blanc en prétendant faire partie de l'élite de la ville afin de subtiliser des millions de dollars.
Bonjour Anna. J'ai juste quelques questions. Moi j'ai une question. Que portez-vous? Vous avez l'air pauvre.
Inventing Anna avec Julia Garner et Anna Chlumsky, ce sera le 11 février sur Netflix.
France Inter. Pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Oui, c'est vous.
Bah voilà, tout aujourd'hui c'est moi, ouais, tout simplement, sûr. En toute simplicité, voilà, cessons de jouer à être ce que nous ne sommes pas. Voilà,
ça suffit les faux semblants.
Ouais, ça suffit les faux semblants. Jérémy Régnier, replongeons-nous dans L'Ennemi, le film dont nous parlons aujourd'hui.
Même si j'ai rien fait dans cette chambre, je suis pas sûr que ça fasse de moi un innocent.
Alors, cette histoire, et nous le disions, lointainement inspirée d'un fait réel, mais ce n'est pas du tout le point de départ de votre participation à vous. Vous, c'est le travail de Stéphane Strecker, le réalisateur qui vous a donné envie de travailler avec lui. Vous dites avoir pris une grosse claque devant Nos, son précédent long métrage, la maîtrise du sujet, la mise en scène, les acteurs, tout vous a impressionné, et c'est ça qui vous a donné envie d'y aller.
Oui, c'est sûr que son travail précédent m'a forcément donné envie, comme heureusement, comme beaucoup de metteurs en scène, c'est en voyant leur travail qu'on a envie de les rencontrer, de partager un film. Mais là, oui, j'étais très impressionné par ce film. Fait en Belgique, alors c'est péjoratif, mais voilà.
Pourquoi ça serait péjoratif?
Parce qu'il y a moins de films, parce que...
Il y a des bons.
Il y a des très bons, mais je veux dire, si on en voit moins. Et voilà. Et là, il sortait du lot, en tout cas, pour moi. Et même au-delà de parler de Belge, en fait. J'avais très envie de le rencontrer. Et Stéphane est quelqu'un de très particulier. C'est-à-dire que déjà, il a une histoire particulière. C'est-à-dire qu'il était, lui, il était d'abord journaliste.
Ouais.
Et puis après, il est devenu un très grand journaliste. Je sais pas comment on appelle ça.
Domestication.
Oui, non, mais pour le non, il fait des plateaux de télé pour les matchs de foot.
Ouais,
donc il est spécialiste.
C'est pas une investigation.
Commentateur,
merci. Et puis voilà, et à côté de ça, il est metteur en scène. Donc il a une forme de densité. Alors dans la vie, il est très dense. Il a besoin qu'on soit tellement investi avec lui parce qu'il l'est lui-même. Et donc ça fait une rencontre assez dingue. Et je dois dire très vite, je me suis dit, ok, soit je fonce dedans et soit on se tape dessus. Et en fait ça s'est heureusement super bien passé, et vraiment dans une forme de densité d'ordre même fusionnel
qui se retrouve tout à fait à l'écran.
Et ça s'est tellement bien passé que Strecker dit de vous sur un plateau: Jérémy ne cesse de proposer et reste toujours à l'écoute. Est-ce que le fait d'incarner un homme aussi opaque exigeait justement des propositions multiples?
Je pense que tout acteur fait la même chose. Hein. À un moment donné, on propose plusieurs choses. Puis ça dépend de l'entente avec le metteur en scène et ce que lui vous laisse comme place. Là, très vite, il y avait une possibilité. Il y avait un échange, en fait. Et donc, il était curieux d'entendre ce que j'avais proposé, et moi aussi. Et en même temps, il savait très bien là où il avait envie d'aller. Donc, c'était... À un moment donné, on marche ensemble. Il y a une phrase que les frères Dardenne m'ont dit qui m'a à l'époque m'a bouleversé, qui me maintient aujourd'hui. C'était sur le deuxième film que j'avais fait avec eux, qui s'appelait L'Enfant. J'avais 21 ans, et après avoir fait 2 mois de tournage, ils viennent vers moi, alors que c'est des en scène déjà à l'époque incroyables, qui ont eu de nombreux prix, et ils arrivent et ils me disent: mais Jérémy, tu sais, maintenant c'est plus à nous de te dire quoi que ce soit, mais c'est à nous de te suivre. C'est toi qui connais mieux le film et le rôle que nous. Je trouvais ça dingue. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, c'est l'échange entre un metteur en scène et son acteur. Et, Il y a une forme d'intimité qui se crée, une confiance, on a envie de voir l'autre, on se fait confiance, on se prend la main pour créer, pour essayer de faire le meilleur film possible. Quoi.
Moi, ce qui me semble intéressant quand même dans ce film L'ennemi, c'est que vous jouez ce personnage Louis Durieux, qui est un homme politique et semble-t-il intègre, mais qui en
Ce qui est fou en politique.
Qui parvient à douter de son intégrité à lui, de son intégrité psychologique, je veux dire.
Ouais, mais c'est là où je trouve que justement Stéphane a fait quelque chose de très intéressant, c'est qu'on tombe pas dans un archétype d'homme politique véreux qui devient véreux parce que toute sa vie est comme ça. Mais je pense qu'en plus le mal n'est pas partout. On est complexe, l'humain est complexe. Même un homme politique est complexe. Je suis sûr qu'il aimerait bien jouer autrement, faire les choses autrement. Mais là, oui, c'est quelqu'un qui a une belle vision de la politique, qui a des vraies valeurs, et tout d'un coup, en fait, est ébranlé par quelque chose qu'il ne maîtrise pas et que le spectateur découvre au fur et à mesure, en même temps que le personnage principal. Ça, qui est très vertigineux, en fait.
Et ce qui est aussi très étonnant chez ce personnage, c'est qu'il a des ambitions nationales, tout en ne parlant pas la langue du nord du pays, le flamand, ce qui, dans la vraie affaire, a même causé de rocambolesques erreurs de traduction dans la procédure, si je ne m'abuse. C'est l'une des particularités du plat pays qui est le vôtre. Est-ce que ça a contribuer à jouer aussi l'enfermement psychologique de votre personnage, de pas se comprendre en fait sur le lieu où il est attrapé, soupçonné.
Mais la langue, bien sûr, si on n'arrive pas à pouvoir se parler, surtout un homme comme lui qui est un orateur, quelqu'un qui s'exprime, qui est dans la diction, qui est dans la parole, se retrouve là tout d'un coup sans pouvoir parler. Mais c'est vrai que ça raconte vraiment notre pays. C'est que moi-même, je parle très mal néerlandais alors que j'y ai grandi, j'ai fait des études là-bas. Il y a quelque chose de particulier. Et maintenant, les nouvelles générations ont un peu changé la donne, mais ça reste. Il y a encore des choses assez étranges.
On va filer la métaphore de l'intégrité, mais là encore, il est question de scission, de dualité.
De scission, de dualité dans le même pays. Voilà, on a deux visages différents sur ce même pays, et pourtant le même. Le même cœur. Et la même voix.
Qu'un seul, Jérémy Régnier, et il est dans ce studio aujourd'hui avec nous. L'ennemi, c'est réalisé par Stephen Strecker et ce sera à découvrir au cinéma le 26 janvier prochain. Jérémy, vous restez avec nous dans la suite de Pop, Pop, Pop. Nous allons parler de...
Au-dessus des vieux volcans.
Comme vous le savez, je crois, il ne va pas revenir tout de suite.
Sur le tapis du vent.
We have done every kind of victimology.
De l'artiste Jaja, du film De son vivant d'Emmanuel Berco, de la série Manhunt, du roman culte de la littérature américaine L'homme des et de pop culture. Tout ça, ce sera après Jour meilleur. C'est un morceau signé Orelsan.
Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.
Comme dans toutes les chansons de Varia, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. Être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais. Mon ami,
laisse-moi dire deux trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure.
allergique à la vie, les matins sont obscurs, comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger, c'est faux, je sais que tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur.
Jour meilleur, Aurel San, c'est ce qu'on espère que l'année 2022 nous apportera à tous. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Oui, alors cette ouverture d'un sabre laser, Star Warsien, c'est ce qui vous évoque la pop culture, Jérémy Régnier. Star Wars que vous regardiez sur des VHS, j'imagine,
exactement.
Pour reprendre notre discussion de tout à l'heure.
Star Wars, oui, oui, oui. Ben oui, c'est devenu quelque chose de tellement... et puis qui a traversé des générations, parce que moi, j'ai grandi avec Star Wars grâce à ces vidéos cassettes, VHS, et j'ai transmis ça à mes enfants.
Et ce son, alors pourquoi ce son en particulier?
Plutôt que « je suis ton père ».
Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très jouissif dans ce son, il y a quelque chose de très libérateur, je sais pas, c'est le héros, c'est le côté, voilà... Luke Skywalker qui a pris la première fois et qui découvre son sabre laser, et le bruit, il est tellement reconnaissable, j'ai l'impression que c'est quelque chose. Voilà. Je me suis même demandé si quelqu'un l'avait pas déjà imaginé chez vous.
On sait quoi vous offrir pour votre anniversaire.
Ah oui, et si
vous
faites vite, un sabre laser. Le rouge.
Bon, Jérémy Régnier, je vous conseille d'enregistrer la séquence qui va suivre sur VHS également, parce que c'est l'heure de votre pop-list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série. Votre livre, le livre que vous nous avez cité, Jérémy, c'est L'Homme D, ou The Dice Man, pour reprendre le titre original. C'est un roman écrit en 1971 par l'écrivain George Powers, Cockcroft, sous le pseudo de Luc Reinhardt. Charline, il paraît que jamais un coup de dé n'abolira le hasard. Qu'en dit le livre?
J'en dis déjà que vous faites le même choix que Ryan Reynolds, Deadpool, ce que je trouve très très chic.
Oui, mais c'est ce qu'on est. On
vous
est
êtes
vraiment,
copains,
on est
bien
potes,
sûr.
Et il m'a piqué le bouquin quand même.
Quel voleur.
D'ailleurs, c'est sympa que tu me le ramènes, Ryan.
Le psychanalyste Luc Reinhardt a décidé de transformer son existence en un immense jeu de hasard. Il laisse de simples dés prendre pour lui toutes les décisions de son existence.
Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît, Jérémy?
Je vais d'abord jeter les dés pour voir.
Allez-y.
Ce que je vais faire.
Allez-y.
C'est non.
Ah mais non. C'est non, c'est dommage. Par contre, il faut que je brûle ce studio. Je suis désolé. Alors, le secret, croyais-je apprendre, consistait à ne pas se faire de soucis, à accepter les limitations, les conflits, les ambiguïtés de la vie avec joie et satisfaction, à se laisser dériver sans effort dans le courant de l'élan vital. La vie n'avait donc pas de sens. Qu'est-ce que ça peut faire? Tes ambitions sont banales. Poursuis-les quand même. La vie te paraît ennuyeuse? Bye.
L'homme D de George Powers, Cockcroft, le livre choisi par Jérémy Régnier dans sa poplice. Alors, Pourquoi?
Mais parce que c'est un livre assez dingue, en tout cas moi qui m'a assez bouleversé. Alors je lis beaucoup et il y a plein de livres que je finis jamais en fait, que je mets de côté puis j'en attaque un autre, et celui-là ça fait partie des derniers que j'ai lu en entier, et pourtant il est assez conséquent. Je trouve que il remet en question en fait l'idéologie qu'on a que la vie est toute tracée, qu'on n'a pas le choix que de vivre sa propre vie parce qu'on vient de ce carcan social, que nos parents sont tiens, voilà. Et là en fait il remet en question totalement ça, en jetant un dé, et il impose à ce dé des choix multiples. Mmh. Et du coup, il se retrouve à faire des trucs dingues, complètement fous, qu'il n'aurait jamais osé faire si le dé lui disait pas de le faire. Et du coup, ça remet en question totalement ce qu'on peut vivre aujourd'hui, nous tous, quoi, en fait. Et je trouvais ça dingue. Voilà, j'ai trouvé...
Il remet tout en jeu en permanence, quoi.
Il remet tout en jeu, il se met dans des situations atroces. Hein, et il décide de tout d'un coup, un coup de dé, c'est soit il reste avec sa femme, soit il la quitte et il part et il verra plus jamais ses enfants. Et il se retrouve alors qu'il les aime. mais tout d'un coup il est obligé, et d'un coup ça, mais c'est à dire que, et c'est fou, avec le temps qui passe on se rend compte que tout ce qu'on traverse dans la vie nous nous est très intense, et puis avec le temps les choses prennent plus de douceur et sont moins urticantes. Et voilà, et le voilà, non, l'homme des, je vous le conseille, c'est vraiment un film, c'est un film, un livre pardon, très puissant.
Eh bien, vous m'avez mis la bière à la bouche, comme on dit à Bruxelles. Mmh. Le film que vous recommandez en ce moment, c'est De son vivant. C'est un film réalisé par Emmanuel Berco, avec Catherine Deneuve, Benoît Bagimel, Charline. Si mon souvenir est bon, on est assez loin des aventures de Petit Ours Brun, là.
Je vous le confirme. Un homme jeune se voit annoncer qu'il est atteint d'une maladie incurable et qu'il lui reste peu de temps à vivre. Sa mère ne peut se résoudre à l'inacceptable.
Au-dessus des vieux volcans.
Comme vous le savez, je crois, il ne va pas revenir tout de suite. Alors il m'a dit de vous dire qu'il pense à vous et qu'il croit en vous.
Voyage, voyage, éternel humain.
Continuez d'apprendre, il a dit. Ne soyez pas sûr de vous. Essayez, osez, risquez, trompez-vous. N'ayez jamais peur d'être ridicule. Ne soyez pas prudents et bons élèves.
Voyage, voyage.
Des petits points de recoupement avec l'homme D dont nous parlions juste avant. Enfin bon, très personnel. La même Emmanuel Berco, tiens, qui partage l'affiche avec vous de l'ennemi. Elle vous défend même.
Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je la défends ici même. Emmanuel est devenu une amie, qui était même une amie avant, en tout cas une rencontre avant de travailler avec elle. Et donc j'aime beaucoup son travail, mais là je dois dire que j'ai été bouleversé par. Par ce film qui a été compliqué à faire, je le sais, pour elle, pour plein de raisons. Et j'ai trouvé les acteurs, Benoît qui est aussi, enfin, je les ai tous trouvés tous dingues.
Qui avait également perdu du poids. Hein.
Qui avait aussi perdu beaucoup de poids. Et surtout, il y a une histoire de ce docteur qui est là. Alors, je vous invite à voir le film, mais vous l'avez, il y a un docteur qui suit, donc,
qui est
cancérologue, qui est un vrai, vrai.
Oncologue.
Et qui suit Benoît, donc le personnage de Benoît, durant toute sa maladie. Et ce qu'il fait avec les autres médecins de l'hôpital, ce qu'il fait avec ses patients, c'est bouleversant, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension, de du suivi, j'ai trouvé ça de
l'humanité.
D'humanité. Ouais. Sublime.
Très bien. Et voyage.
Sublime, et voyage.
Bon, la série qui a retenu votre attention, Jérémy, c'est Manhunt, ou Chasse à l'homme à Québec. Hein. C'est une série d'anthologie axée chaque saison sur une des chasses à l'homme les plus importantes perpétrées sur le sol américain. Charline, chasse-t-on l'homme aussi en Picardie?
Vous avez signé un contrat avec l'Office du tourisme.
Absolument.
De ma région, j'ai l'impression.
Oui,
non,
je dois citer le mot Picardie. D'accord. Au moins 5 fois par émission.
Voilà, en l'occurrence, on est très loin de la Picardie, puisque membre du FBI, Jim Fitzgerald n'a qu'une obsession, mettre la main sur Ted Kaczynski, un criminel de renom passé maître dans l'art de poser des bombes.
The terrorist called Unabomber is planning to blow up an airliner sometime during the next 6 days.
He's targeting airlines, scientists, computers, forestry people.
We have done every kind of victimology. His victims are totally random.
That poor fuck is wrong.
He's lonely.
He's smart, extremely precise.
He feels underappreciated, victimized,
and he's angry.
Manhunt, Unabomber.
C'est la saison 1.
La saison 1. Pourquoi est-ce que cette chasse à l'homme a-t-elle su vous prendre dans ses filets, Jérémy?
Je trouvais, déjà, je connaissais pas du tout ce fait divers qui a été en fait la plus grosse histoire du FBI. C'est-à-dire que pendant, je crois, 17 ans, ils ont poursuivi ce criminel qui posait des bombes et
des
qui revendiquait
des bombes aussi.
Des pompes. et qui revendiquait, voilà, une vision différente du monde actuel, et donc qui était en même temps quelqu'un de très très brillant intellectuellement et qui avait, voilà, qui voulait faire tout exploser. Donc il y a un truc, une dichotomie assez dingue, c'est entre ce personnage qui revendique et ce qu'il fait, et je trouve que la série est assez dingue, et encore une fois ça remet en question notre monde, notre culture, dans quoi on vit, ce qu'on est capable de faire, et je trouve que le duo est très très juste et très intéressant.
Ça revient, hein, souvent, cette envie de faire table rase, de bouger, de repartir.
Ouais, peut-être. Ouais.
Allongez-vous. Terminons cette pop list avec une chanson. Et cette chanson, c'est Badjou, de l'artiste Jaja. Alors, je dois vous avouer que je ne connais ni le morceau, ni l'artiste. Et vous allez me donner envie de découvrir tout ça, Jérémy. La parole est à vous.
Oui, c'est alors, c'est drôle, c'est ce que j'ai un copain qui est un ami d'enfance qui a ouvert comment on appelle ça, un disquaire, et à Bruxelles, au Sablon. Et il me fait découvrir à chaque fois des, voilà, et c'est une plaque, donc c'est un disque vinyle, encore une fois, c'est un peu comme la cassette, voilà, c'est quelque chose de physique, et il me l'a donné en main, il m'a dit, tiens, tu verras, écoute, tu vas adorer, et voilà. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très vibrant, très entraînant, qui sort un peu des sentiers, et voilà, ça m'a fait penser à lui.
Et ben, on va vérifier ça tout de suite, grâce à vous, Jérémy Régnier. Jaja. C'était pour la première fois, je pense, sur France Inter, avec ce morceau.
J'espère qu'il j'ai des droits dessus.
Badjou. C'était en pop, et c'est extrait de l'album Tropical Bird Club, et c'était la pop prescription de notre invité Jérémy Régnier. Alors Jérémy, ce baptême, ça s'est bien passé ?
Génial, merci.
Sans douleur, on est d'accord ?
Sans douleur, j'adore
ça. Sans douleur. Merci à vous de nous avoir rendu visite. Je rappelle que L'Ennemi, le nouveau film de Stéphane Strecker, sera à découvrir dès la semaine prochaine. Et c'est une prescription pop. Merci Charline.
Merci à vous.
À demain. Et merci à toute l'équipe de pop et à Gilles Gaillard qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans l'émission, Reda Kateb vient nous rendre visite. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 pop.